prendre le temps de faire le tour des principales nouvelles de l'actualité dans les prochaines minutes. On a 25 degrés à Québec, quelques bons nuages qui se promènent, un peu de pluie aussi. Les probabilités sont à 30 %. Il y a des risques d'orage également pour ce soir et cette nuit, avec un minimum de 12 degrés. Demain, variable, 30 % les chances de pluie et d'orage en après-midi, avec un maximum de 23 degrés. On double les chances de pluie pour jeudi, essentiellement sous les nuages à 20 degrés. Vendredi, soleil 21. Samedi, soleil 24.
Char et Ouest, hauteur de l'intersection avec les rues Cyril-Duquet et Franck-Carrel, là, voie du centre bloquée, véhicule lourd en panne. Autre véhicule lourd en panne, sur la 40 Est, fin de l'accès provenant de la route Jean-Gauvin, c'est partiellement entravé en ce moment. Normalement, ça, c'est comme des pannes qui durent quand même longtemps. Là. Fait que peut-être faire attention si vous avez passé dans le coin. Si vous êtes sur la capitale direction Est, ça se passe entre Henri IV et Robert Bourassa, Ouest, entre Bourg-Royal et Laurentienne. Ça s'étend aussi Henri IV Sud, là, de Wilfrid Hamel au pont, Duplessis Sud, Charest au pont. Charest Est, c'est à la hauteur d'Henri IV, un peu plus haut dans le coin de Shannon, devant la base militaire. Route de la Bravoure, dans les deux directions, c'est installé. Et la rive sud, c'est la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. Est, c'est vraiment dans le coin de Taniata là, que ça se sent. Autre chose, 88-971-102 texto.
S'il y a une chose que tout le monde a compris dans l'actualité internationale, et c'est vrai autant pour ses supporters que ses détracteurs, c'est que Donald Trump s'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est son nom qu'il y a sur ses hôtels, après tout, ses casinos et ainsi de suite.
En fait, il met tellement partout que c'est rendu qu'il faut qu'on utilise la cour pour enlever son nom des buildings où il n'y a pas d'affaires là.
On voit ce qu'il est en train de faire avec l'historique de la Maison-Blanche. Il est en train de redorer ça littéralement à sa propre image. À un moment donné, on pensait qu'il voulait aider Israël à enrayer la Palestine pour mettre ses stations balnéaires puis ses hôtels puis ainsi de suite. Et est-ce que dans ses nombreux projet mégalomane, Donald Trump veut refaçonner le Moyen-Orient au grand complet, en laissant les journalistes derrière pour prendre les balles. On a plein de choses à jaser sur Donald Trump.
Et moi, l'histoire de tout ça, changer d'avion, j'ai tellement hâte qu'Éric Sauvé nous en parle. C'est mon dada depuis hier soir.
On devrait commencer avec ça. On s'en va rejoindre en ligne le président Dino Vigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense, collaborateur régulier de Gravel dans le retour. Éric Sauvé, salut, comment ça va?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, ça va très bien, merci. Dans ses projets de fou, Donald Trump veut refaçonner le Moyen-Orient. Pas certain qu'il va y parvenir, mais avant qu'on regarde ça d'un petit peu plus près, raconte-nous ce qui s'est passé avec le président qu'on a fait rentrer dans un avion présidentiel pour le sortir d'un conteneur à nourriture. Puis faire ce qu'on va appeler une...
De l'exfiltration.
Une exfiltration.
Ouais, c'est assez incroyable. Écoute, c'était au sommet de l'OTAN en Turquie, à Ankara, il y a environ un mois.
Ouais.
Puis, à l'époque, même Donald Trump, il avait annoncé qu'il allait changer d'avion. C'est qu'il était monté en Turquie avec l'avion qui avait été donné par le Qatar, là, le cadeau à 400 millions. Et il a pris la peine de dire qu'il allait repartir avec le Air Force One, le vieux Air Force One. Mais là, comme tu as mentionné, il y avait une menace. Et puis, ben, il a utilisé carrément les journalistes puis son personnel, comme leur, dans le fond, comme un appât un peu, parce que lui est rentré, ressorti de l'autre côté dans un container de nourriture, là, ceux qui sont comme surélevés, ils l'ont redescendu, l'ont emmené dans un autre avion, mais le Air Force One, qui était menacé, est quand même parti avec l'équipage, les militaires, les journalistes, le personnel de la Maison-Blanche, qui aurait pu
Fait que là, ils ont pas averti personne dans l'avion. Ils ont sorti le président.
En douce.
Puis ouais. L'avion est parti comme si de rien n'était. Puis c'est plus tard que ces gens-là ont appris que leur sécurité était menacée.
Ben, je pense qu'ils viennent de l'apprendre aujourd'hui. Là, mais il a pris la peine de dire aux journalistes qu'il y avait une menace puis qu'il allait changer pour ça. Puis il a dit aux journalistes, « If I go, we go. » Mais là, il n'a même pas embarqué. En fait, il a embarqué, mais il a sorti, ils l'ont mis entre les hamburgers puis le Pepsi.
Oui, puis là, ça d'ailleurs, Éric, faut qu'on s'en parle parce qu'il y a une photo de l'agence France Presse qui circule de ce moment-là où Donald Trump a fait son entrée dans le vieux Air Force One. Dans ce temps-là, il s'en va dans une cabine à part et on voit les fameux containers de ravitaillement. Les containers sont gros, le petit couloir pour se rendre est moins gros. Est-ce que, comme moi, tu as imaginé Donald Trump à quatre pattes en train de se faire pousser pour rentrer dans le conteneur de ravitaillement ou c'est juste moi?
Vous rappelez-vous quand ils l'ont évacué, quand il y a eu un tireur?
Au ralenti, là?
Écoutez, ça a été difficile parce que c'est quand même... Bon, il va dire qu'il mesure 6 pieds 5. Il pèse juste 200 livres, mais il est plus petit et plus pesant. Je pense qu'ils ont fait de la place dans le container avant qu'il arrive. Je pense qu'ils ont libéré, ils ont laissé quelques repas dans l'avion avant. Mais le pire là-dedans, c'est ça, c'est qu'ils ont tout camouflé, puis ils ont pris la peine, quand l'avion est arrivé en Angleterre, ils ont pris la peine, puis là, le Washington Post n'a pas trouvé comment, mais de le faire rentrer et de le faire descendre les marches devant les caméras, comme s'il avait vraiment pris le vol.
Exact.
OK. Fait qu'ils ont fait de la mise en scène juste avant de partir, puis ils ont refait le même show en arrivant.
Ils ont tout fait pour faire semblant qu'ils étaient dans l'avion. Wow. Mais là, un mois après, des journalistes, probablement des demandes d'accès à l'information, probablement des gens qui ont papoté un peu, réussissent à sortir cette histoire-là. Puis, tu sais, ce qui est le pire, c'est que Donald Trump, là, il se met dans les réseaux sociaux comme... Pas récemment, il s'est mis comme Patton puis comme le général MacArthur.
Oui.
Mais tu sais, c'est le premier à se sauver dès qu'il y a une menace, puis carrément dans un camion de nourriture. C'est pas très bon pour son image.
En laissant des gens derrière, puis c'est ce que je voyais. Je voyais plusieurs analystes politiques dans les dernières heures qui disaient « ça n'a pas de bon sens ». Il y avait une menace, on a laissé un avion qui était une cible avec des gens à l'intérieur alors qu'on a protégé le président.
Il aurait pu carrément laisser les deux avions-là, en prendre un autre, parler de la menace, puis dire le président est parti, tu sais, de nuit avec un avion militaire. Mais non, il a laissé son personnel, les militaires qui conduisent et tout. Fait qu'il les a mis en danger. Puis là, je sais pas jusqu'à quel point ces gens-là le savaient. Est-ce que leur plan de vol était modifié? Mais selon ce que je comprends, c'est que leur transporteur, dans le fond, qu'est-ce qu'il annonce l'avion? Il était quand même on. Fait que les Iraniens pouvaient suivre à la trace le vieux Air Force One. Donc, ils savaient exactement où il était. Ça n'a pas de sens. Ils ont pensé juste au président. C'est normal qu'on protège le président. C'est pas normal qu'on mette son personnel en danger sans aucune raison.
Il y a un accord important qui s'est signé cet été entre l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie. En quoi ça change le Moyen-Orient?
Ça, c'est intéressant parce que l'Arabie Saoudite, si vous regardez en ce moment, elle a vraiment des problèmes à faire sortir son pétrole. Le détroit d'Hormuz à l'est est bloqué. Le détroit Bab el-Mandab à l'ouest, la mer Rouge, peut être bloqué par les Houthis. Puis récemment, il y a eu une frappe même dans le canal de Suez en Égypte. Alors, l'Arabie Saoudite se sent pressée. Selon moi, n'ont plus confiance nécessairement en Washington non plus. Mm-hmm. Donc, ils sont allés chercher d'autres partenaires. Et là, il faut comprendre que les partenaires, c'est des partenaires importants dans le monde musulman. C'est des gros pays. Le Pakistan, qui est une puissance nucléaire. La Turquie, qui est une puissance militaire, la plus grosse armée en Europe, puis c'est un membre de l'OTAN en plus. Puis l'Arabie Saoudite, qui amène l'énergie puis l'économie. Alors, c'est comme un refaçonnement, selon moi, c'est que les pays du Golfe se cherchent de nouveaux partenaires parce qu'ils n'ont plus confiance en la défense et en le support et en la voix du président américain.
Puis en même temps, c'est une forme de désaveu aussi, alors que le président américain a lui-même déstabilisé un peu tout le cours pétrolier avec des ententes qui finalement n'arrivent jamais, alors qu'avant de se mettre les deux pieds dans la guerre, dans les conflits avec l'Iran, on n'avait pas de problème là, à faire circuler le pétrole.
L'influence américaine dans le monde va vraiment être diminuée. C'est quand même assez particulier pour quelqu'un qui dit « Make America Great Again », qui se replie dans le fond sur l'Amérique, les deux Amériques, qui laisse un peu l'Europe à la Russie, qui laisse un peu la Chine faire, puis qui est en train en ce moment de perdre de l'influence au Moyen-Orient, mais assez rapidement, parce que l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce sont les deux plus gros joueurs du Moyen-Orient avec Israël. Je voulais juste dire, fait que là, l'Arabie Saoudite est en train de se trouver d'autres partenaires importants. Donc, ça diminue l'influence des Américains dans la région. Puis, on peut penser que les plus petits joueurs, comme le Bahreïn, le Qatar, la Jordanie, vont aussi commencer à chercher d'autres alliés.
Il y en a plusieurs qui ont accusé Donald Trump dans la dernière année d'être une marionnette d'Israël et de Benjamin Netanyahou. La marionnette a proposé un plan de paix, puis finalement, ça marche pas.
Ouais, ces deux-là, ils ont vraiment une relation amour-haine, je crois. Parce que Netanyahou a quand même réussi à faire venir Trump au Moyen-Orient, la frappe des 12 jours l'année passée, qui a quand même été un succès à ce niveau-là. Là, il a réussi à faire frapper le régime iranien. Ça ne va pas comme Trump veut, ni comme les Américains veulent. Mais là, maintenant, Trump nous annonce un plan de paix avec le Hamas, qui aurait été discuté avec le Hamas. Mais Israël était absente depuis plusieurs jours des communications, en tout cas officielles. Et puis Netanyahou vient de dire que finalement, il n'accorde pas le plan de paix. Il n'est pas d'accord avec le plan de paix. Je suis certain que la prochaine rencontre entre Netanyahou et Trump va être assez houleuse. Merci.
C'est pourquoi que ce plan de paix-là est refusé? C'est-tu parce qu'on la veut tout simplement pas, la paix, du côté d'Israël, ou il y a des raisons un peu plus techniques ou logiques?
Ben, la première partie de ta réponse, elle pèse dans la balance aussi.
Ouais, ouais.
Mais ce qui arrive, c'est qu'on demande, dans le fond, au Hamas de se retirer progressivement et de se désarmer progressivement. C'est-à-dire que peut-être une première zone de désarmement, on avance avec des forces, je sais pas, des forces de maintien de la paix ou quoi que ce soit. Tandis que Israël dit non, ça prend un désarmement complet de toute la bande de Gaza et puis on va bouger après. Mais évidemment, aucun des deux pays, oh, en tout cas, Hamas ne veut pas ça et Israël ne veut pas non plus y aller progressivement parce que c'est très bien que le Hamas a tendance à s'entrancher aussi, à se retirer dans d'autres positions puis se réarmer de toute façon. Donc, c'est pas un problème qui est facile, pas un problème qui est simple.
Fait qu'au total tout, là, quand on regarde étape par étape de tout ce qui s'est passé dans l'actualité internationale, on a l'impression que Trump est en train de perdre sa grippe sur pas mal tous les dossiers stratégiques à grandeur de la planète, là.
C'est intéressant parce que ce que tu dis, parce que Trump, quand il a vu que sur le plan domestique, il n'arrivait pas à faire ses changements aux États-Unis, il s'est tourné sur le plan international, ce qu'on voit souvent dans des présidents de deuxième mandat, d'essayer de changer des choses. Mais là, tout s'écrase. Depuis le Venezuela, qui était un succès, l'Iran, t'as envie de perdre l'Arabie Saoudite, l'Égypte qui est pratiquement rentrée dans le conflit. Là, on n'a pas mentionné une chose, c'est que l'Ukraine a frappé un navire iranien qui amenait des armes en Russie. Fait que là, l'Ukraine est rendue pratiquement dans la région du Moyen-Orient aussi. Fait que ça va pas très, très bien dans le coin.
Éric, on va revenir chez nous, au Canada. Les filles m'ont glissé un mot de ça parce que c'était dans l'actualité des dernières semaines. Tu voulais nous parler des bases unilingues qui vont devenir... pour les forces armées,
oui.
Des bases unilingues anglophones au Canada. C'est pas supposé de marcher de même.
Non, effectivement, la loi sur les langues officielles dit non seulement que tu dois être bilingue, mais aussi que tu dois faire la promotion du bilinguisme. Hein? Puis le problème avec ça, c'est que là, il y avait des plaintes dans différentes bases. Puis là, on peut s'imaginer des bases dans le fin fond de l'Alberta, tu sais, des coins où il n'y a pas de gens bilingues. Mais les plaintes des francophones étaient fondées. C'est ça, le ministère nous le dit, là. C'était pas des plaintes farfelues, c'est des plaintes fondées.
Okay.
Mais comme le ministère a de la misère à s'occuper des plaintes fondées, ben ils ont enlevé la norme de bilinguisme. Donc, eux vont se vanter qu'il n'y a plus de plaintes, parce que les plaintes sont non recevables, mais le problème n'est pas réglé. Vous comprenez? Puis là, il y a 180 unités et organisations qui sont rendues depuis la fin juillet, officiellement unilingues. Ça veut dire qu'un francophone qui va là, ben, ça se peut que ça se travaille en anglais, mettons, son unité, comme, mettons, je vais envoyer le RCR, le régiment anglophone. Sauf que mon administration, mon médical, santé mentale, ma paye, la poste...
Toutes les services,
devrais être capable
en fond,
Oui, le support au personnel devrait être en français, mais là, ils ne pourront plus le demander, ils ne pourront plus se plaindre, ils vont devoir se débrouiller. En plus de ça, c'est que le Collège militaire royal du Canada à Kingston, le plus gros collège, depuis le mois de mai, a décidé qu'il était officiellement unilingue anglais dans ses communications. C'est-à-dire que les jeunes peuvent rentrer puis étudier leur université en français, mais toute l'administration, comme j'ai mentionné, est rendue en anglais. Pensez-vous que ça va encourager des jeunes de 16 ans, dont plusieurs rentrent avec un anglais comme Yes No Toaster, puis là, ils vont devoir se faire dire « Ah non, mais à partir de maintenant, il faut que tu comprennes l'anglais dès la première année, là, en formation. »
Éric, tu me corrigeras, mais oui. Tu sais, quand les militaires sont affectés à d'autres bases, ils partent avec leur famille, puis ça ne veut pas dire que leur famille est bilingue au complet, puis eux autres aussi vont avoir besoin de services sur ces bases-là, non?
Ça, j'avais été invité au comité permanent de la défense au printemps, justement, pour parler de ça. La famille, c'est une unité, OK? C'est vraiment l'unité du membre. si la famille a de la difficulté, n'est pas heureuse, a des difficultés, ça va pas être facile pour eux. La politique comme telle n'affecte pas la famille, sauf qu'on avait déjà des problèmes pour la famille, puis là, on vient de rajouter des problèmes pour le membre en plus. Fait que là, avant, il y avait juste la femme et les enfants qui n'étaient pas contents. Mais là, tout le monde n'est pas content. Le membre aussi, comprenez-vous?
Mais là,
il y a avoir des services.
Ça doit grogner un petit peu sur le terrain. Y a-tu quelque chose qui s'organise justement parce que pour ramener, je veux dire, on n'est pas dans un vestiaire de hockey, de la Ligue nationale de hockey, là. Je veux dire, on est dans un pays où normalement, t'es capable d'être servi dans les deux langues d'un océan à l'autre.
Là. Oui, effectivement, mais je suis content que tu poses la question parce que les militaires en service, ils ont un devoir de réserve. Ils ne vont pas aller dans les médias et dire que c'est un problème.
Mm-hmm, ouais.
Sauf que je pense que c'est le rôle des vétérans de se mobiliser. J'ai écrit une lettre d'opinion dans Le Devoir avec le major général à la retraite, Alain Foran, qui est un ancien du Royal 22e Régiment, mon régiment, qui est un ancien colonel du régiment, donc une position très honorifique. Puis on a dénoncé ça, et puis en ce moment, on est en train de travailler sur une pétition, aller chercher 500 signatures en ligne pour demander au gouvernement qu'il révise la politique qui vient de sortir.
Okay.
Parce que pour eux, c'est juste un problème administratif. Mais nous, notre point, c'est que le français, c'est pas un boulet qu'on traîne, puis qu'on l'accommode quand on peut. C'est une richesse. Quand on se déploie, là, ben, y a plein de pays francophones dans la francophonie. Le français, c'est une langue internationale à l'ONU, à l'OTAN. C'est un atout partout. Là, dire, ah, bon, on fait juste accommoder ces maudits franco-là, ça fonctionne pas. Les franco, ils renforcent la cohésion, il renforce le pouvoir et l'influence du Canada. Fait que c'est ça qu'on dénonce en ce moment.
Très bien résumé, puis bonne chance dans vos démarches. Éric, merci beaucoup.
Merci à vous. À la prochaine.
Éric Sauvé, qui nous parle de l'actualité internationale. J'ai oublié d'y demander s'il restait